Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. C'est la une dans l'est de la RDC avec l'AFC M23 qui tente d'asseoir son emprise à Goma avec l'installation sur place d'un système financier qui lui est propre. La capitale du Nord Kivu qui est sous le contrôle du groupe armé depuis 2 mois désormais. Un village qui lynche à mort par erreur 2 chercheurs et leurs accompagnateurs confondus avec des djihadistes de Boko Haram. Un village qui demandait pardon hier lors d'une cérémonie. Cela s'est passé dans l'extrême nord du Cameroun, nous serons sur place. Boualem Sansal, normalement fixé sur son sort aujourd'hui en Algérie. L'écrivain franco-algérien risque jusqu'à 10 ans de prison. Après plus d'une décennie de turbulences, Kenya Airways renoue enfin avec les bénéfices. Sauvés par l'État kényan à plusieurs reprises, les restructurations ont finalement porté leurs fruits pour la compagnie aérienne. Enjeu capital, mais le rendez-vous le sera-t-il aujourd'hui à Paris, où s'ouvre le sommet international sur la nutrition, Nutrition for Growth. Ce sera notre dossier du jour. Et puis le sport et cette question, la CAN U20 de football aura-t-elle lieu en Côte d'Ivoire? La rumeur est lancée sur un désistement du pays organisateur. On décryptera tout ça ensemble. Comment vit-on dans une ville occupée et dans laquelle plus aucune banque commerciale ne fonctionne? Dans l'est de la RDC, c'est donc la situation de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, depuis que l'AFC M23 en a pris le contrôle il y a 2 mois avec le soutien du Rwanda, et depuis que les autorités de Kinshasa ont ordonné la fermeture des institutions financières sur place. Les liquidités viennent aujourd'hui à manquer pour les plus d'un million d'habitants, l'économie locale est évidemment fortement perturbée. Alors pour pallier le manque, l'AFC M23 entend créer son propre système financier, Patient Ligodi.
L'AFC M23 prévoit de mettre en place une structure parallèle baptisée Autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances. D'après les informations de RFI, cette structure est déjà créée sur papier. Elle devrait jouer le rôle d'une banque centrale dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali souhaite également réactiver la CADECO, une institution financière publique congolaise considérée par plusieurs experts comme quasiment à l'arrêt. La rébellion a nommé une direction parallèle avec l'objectif d'en faire la principale banque de la zone sous son contrôle. Les recettes fiscales collectées par l'administration de l'AFC M23 devraient y être versés. Des consignes ont été données aux changeurs de monnaie et aux opérateurs économiques locaux pour ouvrir des comptes au sein de cette structure. Mais ce système se heurte à plusieurs obstacles majeurs selon les experts contactés par RFI, notamment l'absence de connexion aux banques de correspondance internationale et les restrictions du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent. De son côté, l'AFC M23 envisage de s'appuyer sur des pays voisins, principalement le Kenya, le Rwanda ou encore l'Ouganda. Mais une question se pose, ce projet peut-il vraiment voir le jour? Tout dépend, répond un expert, du degré d'isolement international de l'AFC M23 et de la réaction des pays et banques de la région.
Les explications de Patient Ligodi. Au Soudan du Sud, nouvelle escalade vers un possible retour de la guerre civile. Hier, dans la soirée, le premier vice-président Riek Machar a en effet été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises, a annoncé son porte-parole. Les conditions exactes de cette détention et son implication pour la survie de l'accord de paix signé en 2018 ne sont pas claires à ce stade. Mais le Soudan du Sud n'a, semble-t-il, jamais été si proche d'un retour du conflit. L'ONU appelle à la retenue et au respect de l'accord de paix. Le temps du pardon hier dans l'extrême nord du Cameroun avec une cérémonie dans le village de Soulderoua, localité du département Mayotte-Sanaga qui a connu l'horreur absolue au début du mois lorsqu'une foule en colère s'en est pris à 2 chercheurs et leur accompagnateur confondus par erreur avec des djihadistes de Boko Haram. Les 3 personnes ont alors été passées à tabac et puis brûlées vives sur la place du marché. Un village aujourd'hui noyé de remords, Polycarpe Samba.
En guise de cérémonie, c'était un recueillement avec des prières et des cantiques pour implorer et conjurer le sort après les événements du 2 mars 2025.
Tout le monde regrette.
Les 2 chercheurs et leur guide avaient été arrêtés en plein jour près d'un lieu considéré comme sacré et malgré leurs supplications, leur mise à mort par le feu avait été prononcée sur le champ. Les raisons de la méprise rappelées par le prédicateur du jour.
La journée du 2 mars 2025, aux environs de 13h, 3 individus qui, selon la population, étaient assimilés à des malfrats venus pour place. planifié leur opération. Malheureusement, leur identité n'a pas été bien déclinée.
Depuis le drame, entre remords et demandes de pardon, le village de 5000 âmes est habité par un étrange sentiment de culpabilité partagé par tous.
Comme message, nous demandons pardon. Pardon à Dieu, pardon à tous les Camerounais.
Présent à cette cérémonie au nom du gouvernement, le ministre de la Santé Manaouda Malachi, qui est lui-même natif de la localité, a déclaré qu'aucune justification ne peut être acceptée pour une telle tragédie et que plus jamais cela ne se reproduirait.
Il fallait un peu, à travers la parole de Dieu, solliciter la purification divine. Nous avons imploré ensemble cette miséricorde divine, cette bonté de Dieu pour que nous puissions être non seulement pardonnés pour ce péché, mais pour que la communauté soit également purifiée. Donc je peux vous dire, ça ne pourra plus arriver.
Reste à voir le sort que les familles des victimes donneront à cette demande de pardon. Pour les Carpesomba, de retour d'un baldar par Maroua, RFI.
Il risque 10 ans de prison en Algérie. C'est en tout cas la réquisition du procureur contre Boualem Sansal qui sera fixée normalement sur son sort aujourd'hui. Le verdict est en tout cas attendu dans ce dossier qui a mis le feu aux poudres entre Alger et Paris. L'écrivain franco-algérien, je vous le rappelle, est accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Mais il jouit d'un fort soutien dans l'Hexagone au sein de la classe politique, entre autres, comme l'a constaté Victorien William dans les couloirs du Palais Bourbon, l'Assemblée nationale française.
Tous les députés espèrent une issue favorable pour Boualem Sansal, un espoir d'autant plus grand qu'Abdelmadjid Tebboune a joué récemment la carte de l'apaisement. La socialiste Béatrice Bellé.
Nous pouvons que voir les mots d'apaisement comme des espoirs pour Boualem Sansal. On croise les doigts parce que face à un gouvernement qui a décidé d'avoir quand même des attitudes autoritaristes, on peut s'attendre au tout bon comme au pire.
Alors si l'écrivain est condamné et si le président algérien ne décide pas de le gracier, quelle attitude adopter ? Au MoDem, malgré le risque de rupture, on défend la ligne dure de François Bayrou. Philippe Vigier.
Il y aura une graduation des sanctions parce qu'on ne peut pas laisser les choses se faire comme cela. C'est tout. Simplement, c'est pas une menace. La démocratie a un prix.
Tandis que pour la gauche, c'est la voie diplomatique discrète qui devra être privilégiée. C'est la position des socialistes et des insoumis qui reconnaissent d'ailleurs des vertus à la posture du président français et du ministre des Affaires étrangères, Thomas Porte.
Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron ont quand même des positions beaucoup plus sensées sur la question algérienne, sur la question du rapport avec le pouvoir algérien. Donc il faut aussi que les voies diplomatiques qui ont été une richesse de la France par le passé puissent s'exercer, notamment sur des dossiers comme ça, où on sait que ça se règle en coulisses.
Le député LFI salue d'ailleurs le potentiel déplacement de Jean-Noël Barrot à Alger au début du mois prochain.
Victorien Guillaume, moins de nuages en vue. Le ciel semble de nouveau s'éclaircir pour Kenya Airways, la compagnie aérienne kenyane qui renoue avec les bénéfices qu'elle n'avait plus connus depuis 2012. Sauvée par l'État kenyan à plusieurs reprises, elle redécolle aujourd'hui et ses ventes de billets battent même des records. Alexis Bédu, c'est ici la conséquence de changements drastiques dans la politique de l'entreprise.
Les plans de restructuration semblent avoir porté leurs fruits. Il y a déjà eu une optimisation du réseau. Objectif, se concentrer sur les routes rentables et réduire celles qui ne le sont pas. Exemple avec l'abandon du vol pour Mogadiscio et le renforcement des lignes vers Londres ou New York. Le deuxième axe, c'est une rationalisation de la flotte. Kenya Airways a remplacé les avions les plus anciens par des modèles plus économes en carburant. La compagnie a aussi bénéficié de la remontée du shilling kenyan l'année dernière par rapport au dollar. L'État, qui a renfloué les caisses de la compagnie plus d'une fois, souhaite désormais privatiser, mais la recherche d'un acheteur s'éternise. S'il y a eu des touches avec notamment une compagnie américaine, rien n'a abouti pour l'instant. Le directeur général de la compagnie fait aujourd'hui valoir ses records du plus grand nombre de passagers transportés et de chiffres d'affaires pour démontrer la viabilité de son entreprise. Pas suffisant pour l'instant, malgré une nouvelle aide de 150 millions de dollars de l'État en janvier, Kenya Airways reste plombé par les dettes.
Alexis Bédu, une problématique qui reste cruciale sur le continent pour notre dossier du jour, consacré au sommet international pour la nutrition, le sommet Nutrition for Growth, qui doit s'ouvrir aujourd'hui à Paris. Et nous, sur RFI, on vous donne à voir une illustration concrète de l'enjeu, à Madagascar notamment, au cœur d'un CRENI, un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensif, considéré comme les lieux de la dernière chance pour les enfants atteints de malnutrition aiguë, sévère, avec complications. La grande île compte 76 centres comme celui-ci, maintenus à flot essentiellement par les bailleurs de fonds. Un chiffre ayant plus que triplé entre décembre et février. Sur place, au CRENI de Touléar, c'est un reportage de Sarah Teto.
Félix gît sur le matelas en plastique du CRENI. Le petit garçon de 17 mois a les yeux ouverts, mais le regard absent. Immobile, il n'a même plus la force de cligner les yeux pour chasser les mouches trop envahissantes. Il y a une semaine, explique sa maman, il s'est évanoui.
Ensuite, il a vomi et il a eu la diarrhée. Je suis allée voir une tradipraticienne, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors, je l'ai amené à l'hôpital. Il était toujours inconscient et on nous a admis ici.
L'enfant souffre de malnutrition aiguë sévère. S'il suit le traitement de bout en bout, il aura 60% de chances de s'en sortir, indique l'infirmier qui s'occupe de lui.
Il était très 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 faible au moment qu'il était venu ici. On lui a donné de l'oxygénothérapie pendant 6 jours. C'est déjà 3 jours qu'il est réveillé, mais pas normal. Les médicaments, ce sont des antibiotiques et du lait thérapeutique introduit par la sonde.
Depuis décembre, les centres dédiés à la lutte contre la malnutrition aiguë sévère ont enregistré une très forte hausse d'admission due en partie à la période de soudure. Les stocks de nourriture sont quasi épuisés dans les campagnes et la prochaine récolte n'aura pas lieu avant début mai. Mais le nombre d'enfants admis a aussi doublé par rapport à l'an dernier. L'UNICEF mène actuellement une enquête nutritionnelle pour en déterminer les causes. Et ce qui alerte encore plus, c'est l'augmentation sans cesse croissante de patients citadins comme Félix, preuve que cette pathologie ne touche plus seulement les habitants de la Brousse. Sarah Tetto, de retour de Tulare, RFI.
Et ces derniers jours, les acteurs humanitaires, justement, s'inquiètent face au désengagement massif et brutal des bailleurs de fonds dans la lutte contre la malnutrition. Les budgets ont été divisés par 2 pour ce qui concerne les activités, rien que dans le Grand Sud malgache. Direction à présent le Soudan du Sud, confronté à cette problématique lui aussi. Là-bas, Samuel Chor est le coordinateur national de la coalition de la société civile pour les droits des enfants. Et il espère vraiment que ce rendez-vous à Paris, aujourd'hui, permettra un engagement des pays dans cette lutte.
La situation de la malnutrition est très critique au Soudan du Sud. Au cours de ces 2 dernières années, près de 9 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire et près d'1 500 000 enfants étaient en état de malnutrition. Nous voulons que ce nombre soit réduit. Nous attendons que nos autorités s'engagent en matière de nutrition. Le gouvernement s'était engagé à allouer 10% du budget national à l'agriculture et à la sécurité alimentaire et 15% aux services de santé. Ces engagements pris en 2021 lors du sommet de Tokyo n'ont pas été respectés. Nous souhaitons que de nouveaux engagements soient pris par notre gouvernement et aussi par d'autres pays, mais que ces promesses soient cette fois respectées afin d'augmenter les aides et qu'on s'assure aussi que les initiatives soient réellement appliquées sur le terrain.
Samuel Chor de la société civile sud-soudanaise pour refermer notre dossier en amont du sommet Nutrition for Growth aujourd'hui à Paris. Allez, peut-être un petit séisme en vue pour les jeunes footballeurs. La rumeur a en tout cas agité la toile ivoirienne et plus largement le continent, car la Côte d'Ivoire aurait annoncé son désistement pour l'organisation de la CAN des moins de 20 ans qui est normalement prévue du 26 avril au 18 mai. Alors en effet, il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit. Cette rumeur est basée sur une communication interne au comité d'organisation qui existe bel et bien. Mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel dans tout cela, Youen Gourlet.
Ce mercredi matin, un texte signé de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, à destination des membres du COCAN, le comité d'organisation de la CAN U20, a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il expliquait que le gouvernement ivoirien avait annoncé que la Côte d'Ivoire se désistait de l'organisation de la CAN U20. Le texte dit aussi que la CAF, la Confédération Africaine de Football, a été prévenue de cette décision. Une lettre interne aux instances donc, mais qui a fuité et a été reprise par l'ensemble de la presse sportive ivoirienne et internationale. Du côté de la Fédération Ivoirienne, un haut placé explique que la lettre aurait fuité délibérément pour mettre un coup de pression à la CAF. Mais pour l'heure, on ne sait pas encore pour quelle raison l'État ivoirien a fait cette annonce à la FIF. Certaines sources évoquent des questions budgétaires. On se souvient que quelques jours avant la CAN organisée l'an dernier en Côte d'Ivoire, la CAF avait demandé au gouvernement de payer les primes des sélections qualifiées pour la compétition, ce qui avait provoqué des tensions au sein des instances du foot ivoirien. Mais pour le moment, la FIF et la CAF ont assuré que le désistement de la Côte d'Ivoire n'était pas officiel. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 6h bientôt 44 minutes. Notre matinale continue avec Andréane Mélard.